I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Pourquoi le salaire d'un grand patron, au hasard Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, dont les émoluments atteindraient 36 millions d'euros annuels, pourquoi ce chiffre pose-t-il problème alors que personne ne conteste que Kylian Mbappé touche le double au Paris Saint-Germain? Je vais tenter une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le sport vous renvoie à votre niveau. Personne n'imagine qu'il puisse être Federer, Hamilton ou Mbappé. Vous acceptez le joueur, le sportif que vous êtes. Vous ne contestez pas la loi du résultat. Un vestiaire est le seul endroit où la hiérarchie n'est pas remise en cause. Dans l'entreprise, les critères sont plus flous. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Certes, il peut exister les résultats, mais les appréciations sont moins objectives. Au fond, personne ne reconnaît à un grand patron l'excellence, la rareté ou le génie qu'on accorde à Platini hier, à Djokovic aujourd'hui. De manière plus ou moins inconsciente, chacun se dit « 36 millions d'euros pour Tavares, ça ne vaut pas ça. Il est interchangeable. Un autre ferait aussi bien. » Eh bien non, justement pas. On pense ce qu'on veut du système capitaliste, mais il convient d'être cohérent. Si Mbappé est payé 70 millions d'euros par an, on ne peut pas être choqué que Tavares ait marge à moitié moins. Et puisse Stellantis ne jamais regretter le départ de son PDG, comme le Paris Saint-Germain déplorera l'exil de son champion en juin prochain. Il est 9h, Chanel Housteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une opération Place Net vient d'être lancée à Mayotte, tout comme l'opération Wambushu. Elle va s'attaquer à l'insécurité, l'immigration clandestine et l'habitat insalubre. Pendant 11 semaines, 1700 policiers et gendarmes vont être déployés au total. Et puis, nouvelle polémique autour de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon et sa candidate pour les européennes, Rima Hassan, doivent tenir une conférence sur la Palestine jeudi à l'université Lille 3. Sauf que sur l'affiche de l'événement, on retrouve le logo de l'association Libre Palestine qui nie l'existence de l'État d'Israël. Plusieurs partis politiques demandent l'annulation de cette conférence, notamment le Rassemblement national. Sébastien Chenu était l'invité de la matinale de CNews.
Par intérêt électoral, Jean-Luc Mélenchon utilise la cause et le conflit israélo-palestinien, utilise les souffrances des Israéliens pour courir après des électeurs ici en France à l'occasion des élections européennes. En fait, la France insoumise ou la France islamiste, on peut l'appeler comme ça, se cache derrière des associations montées de toutes pièces comme Libre Palestine pour pouvoir utiliser les locaux des universités et venir tenir des discours politiques.
L'agression iranienne menace la paix mondiale. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou qui appelle la communauté internationale à rester unie face à l'Iran. Et malgré les appels à éviter l'embrasement, le chef d'état-major de Tsahal a promis une riposte à cette offensive sans précédent. Écoutez.
Nous regardons vers l'avenir. Nous envisageons nos prochaines actions. Et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana. Charlotte Dornelas est avec nous ce matin. Joseph Massescaron, Vincent Hervouette, Joachim Le Floch-Imad, Gauthier Lebret. On a beaucoup de chagrin ce matin, beaucoup de chagrin dans la rédaction de CNews, parce que Gilles Taïeb, qui était le vice-président du CRIF, est mort. Et vous le voyez, Gilles, il venait régulièrement nous voir. Et Karen Taïeb, son épouse, a tweeté il y a une heure « On est venu nous arracher l'un à l'autre alors que nous avions construit une vie d'inséparables. Le bonheur d'être toujours ensemble à chaque instant de notre vie, main dans la main, avec nos merveilleux enfants. On n'a jamais imaginé l'impossible. Merci pour tous vos messages. Et vous voyez cette photo du bonheur qu'elle a mise sur les réseaux et qui nous fait penser à cet homme remarquable et à cet homme que nous ne verrons plus sur notre plateau de CNews. Il y a beaucoup de réactions. J'ai vu que Laurence Ferrari, il y a quelques minutes, avait tweeté ce que nous pensons tous ce matin. Grande tristesse, toutes mes pensées pour vous et votre famille, chère Karen. Et évidemment, nous nous associons à cette peine, à ce chagrin, toute la rédaction de CNews. Et évidemment, Serge Nedjar qui dirige cette maison. Nous allons évidemment évoquer l'actualité israélienne et Gilles Taïeb venait régulièrement, Vincent Hervouette, nous en parler. La riposte, depuis hier, c'est un sujet qui est sur la table ce matin. On va voir le sujet de Sarah Afenzari. On attendait peut-être hier soir une riposte, on ne sait pas quelle forme elle prendra. Je vous propose de voir le sujet de Sarah Afenzari et nous en parlons ensemble.
Il y aura bien une riposte, selon le chef d'état-major de l'armée israélienne.
Nous regardons vers l'avenir, nous envisageons nos prochaines actions et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte.
Juste après cette allocution, donnée devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a affirmé que tout sera fait pour protéger l'État d'Israël au moment et à l'occasion qu'ils choisiront. Cette attaque était présentée comme une opération d'autodéfense après la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas en Syrie et imputée à l'État hébreu. Tsahal a affirmé que des terroristes étaient présents dans le bâtiment.
Il s'agissait de personnes engagées dans le terrorisme contre l'État d'Israël. Ces terroristes étaient accompagnés de membres du Hezbollah et de collaborateurs iraniens.
Benjamin Netanyahou appelle la communauté internationale à rester unie face à l'Iran.
Georges Bensoussan était ce matin avec Sonia Mabrouk et il a parlé de cette riposte.
La riposte est inévitable parce que si, c'est d'ailleurs la situation piégée dans laquelle est Israël, et depuis le 7 octobre d'ailleurs, hein, parce que si Israël ne répond pas, alors que l'attaque vient d'Iran et que c'est une attaque massive avec 300 engins et 60 tonnes d'explosifs, ça signifie que sa capacité de dissuasion est entamée. Et si Israël riposte de façon trop massive, alors ça contrecarra les plans et les objectifs de l'allié américain. Donc la voie est très très étroite pour l'État d'Israël. Il ne peut pas ne pas réagir, mais il doit réagir de façon très intelligente, très mesurée. Comment ? Je n'en sais rien, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas ne pas réagir.
Vincent Hervouette.
Vous avez vu le chef d'état-major de l'armée israélienne qui est sur la base de Nevatim et qui annonce la riposte imminente, ou pas forcément immédiate, mais qui se prépare. Il est à l'endroit précis où les missiles balistiques iraniens ont frappé l'État d'Israël, parce que tout le monde a remarqué que 99% des engins envoyés par les Iraniens ont été neutralisés en vol et se sont heurtés soit au dôme de fer, soit à la fronde de David, soit à la chasse américaine, jordanienne, etc. etc. Bon. Mais il y a quand même quelques-uns qui sont passés. Quelques missiles balistiques que les Iraniens prétendent hyper-véloces, qu'ils ne sont sans doute pas, mais il y a quand même une véritable industrie balistique efficace, puissante. Et un jour sans doute, un jour malheureusement, ces missiles seront peut-être chargés d'une bombe sale ou de nucléaire. Donc, il y a un véritable changement stratégique, il y a un véritable défi, et le piège dans lequel ne veut pas tomber Israël, c'est d'avoir une riposte qui soit à la fois non dissuasive, c'est-à-dire trop faible, ou trop forte, qui s'attaque aux civils, ou inefficace. Donc il y a les Américains. Les Américains ne veulent pas y aller. Joe Biden n'a pas ça à son programme de campagne électorale. Il n'a pas eu un embrasement du Moyen-Orient. Et Joe Biden soupçonne en plus Benjamin Netanyahou de vouloir se maintenir au pouvoir grâce à ça. Donc c'est un dilemme pratiquement insoluble. Et ça rappelle ce qui s'est passé effectivement le 8 octobre ou le 7 octobre au soir. Comment réagir, comment rétablir la dissuasion sans se retrouver isolé, seul au monde et accusé de toutes parts.
Écoutons M. Blinken.
Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous continuerons à défendre Israël et à protéger nos effectifs dans la région. Au cours des 36 heures qui ont suivi, nous avons coordonné une réponse diplomatique pour tenter de prévenir une escalade.
Très vite. Blinken,
oui.
C'est un homme très intéressant à suivre, hein, parce que bon, vous savez qu'il ne parle pas couramment français, qu'il est éduqué à moitié à Paris. Hein, il est en même temps l'homme de l'administration Obama, et comme d'ailleurs Biden. Et la moitié de l'administration Biden est de l'administration Obama qui n'a cessé, pendant les 4 ans où ils étaient au pouvoir, les 8 ans où ils étaient au pouvoir, de négocier un deal avec les Iraniens. Le grand rêve de M. Biden, c'est de faire mieux que Donald Trump. Absolument. Donald Trump avait fait les accords d'Abraham. Biden ne rêve que d'une chose, c'est un petit accord, au moins, avec les Iraniens. Et donc, il y a tout un dialogue entre Téhéran et Washington qui a donné ce spectacle inouï, où ils préviennent 3 jours à l'avance de ce qu'ils vont faire, et les autres ripostent en disant bon, « Maintenant, halte au feu, c'est bon, c'est suffisant, c'est assez ».
Gilles William Goldnadel était avec nous hier, vous le connaissez, il intervient régulièrement sur notre antenne, il était samedi soir à Tel Aviv.
C'est une nuit blanche, hein, une nuit où on ne pouvait pas dormir, puisqu'on nous annonçait que les drones allaient arriver. Alors les drones, on nous disait que les drones allaient mettre 4 heures, 5 heures pour arriver, et que les missiles balistiques arrivaient aussi, mais que ça mettait, je ne sais pas, une heure. Donc inutile de vous dire que vous êtes à côté de l'abri, et que vous attendez. Moi, qui ne suis pas d'un courage physique exceptionnel, j'étais dans la colère. Et puis, puisque je devais repartir le lendemain avec mon petit-fils à Paris, je me disais que je ne pouvais pas. Je n'imaginais pas un seul instant que 99% des missiles allait être arrêté par le Dôme de Fer et quelques autres. Donc ça a été... c'était encore une nuit que je n'imaginais pas non plus vivre un jour dans ma vie. On me dit que le ciel est fermé. Le ciel est fermé à 2-3 heures du matin. Comment voulez-vous que j'imagine, même en étant optimiste, que je vais pouvoir reprendre l'avion à 10 heures du matin? C'était incroyable, et pour tout dire, inespéré.
Et en marge, évidemment, de ce conflit, une députée a demandé l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille. Une conférence portant sur l'actualité en Palestine devait se tenir jeudi à l'Université de Lille. Et c'est la députée Renaissance Violette Spilbou qui est venue plusieurs fois sur ce plateau et qui demande son annulation.
Elle n'est pas seule. Hein.
Je crois qu'elle est avec nous, d'ailleurs, Violette Spilbou, parce qu'elle est en Estonie, pour tout vous dire, en pleine campagne européenne, alors que les débats se radicalisent. J'interpelle le président de l'Université de Lille pour lui demander l'annulation de cette conférence de propagande, comme l'a fait Rennes ou Bordeaux. Il y a également un tweet de Xavier Bertrand qui va dans ce sens. Nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France insoumise, et de Rima Hamas qui a par travers... Rima Hassan, qui à travers le logo libre Palestine nie l'existence de l'État d'Israël. Je demande à l'Université de Lille et au préfet son annulation. Il y a une pétition, signe notre pétition pour faire annuler cet événement. Non à l'islamisme et l'antisémitisme dans nos universités. Il y a également des réactions de l'UNI qu'on entendra dans une seconde. Mais puisque Violette Spilbou est avec nous, je voulais savoir... Bonjour Madame Spilbou.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Je voulais savoir si cette, à l'heure qu'il est, est-ce que cette conférence est maintenue ou pas?
À l'heure qu'il est, elle est maintenue, mais j'ai eu un échange avec le président de l'Université de Lille et j'ai vraiment souhaité expliquer mon action politique parce que je sais que le président de l'université est très soucieux du droit, que cette conférence a été organisée par une association étudiante, mais il n'empêche que la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nos universités publiques doivent se laisser infiltrer de cette façon par la France insoumise, par l'idéologie de la France insoumise, et encore plus à un moment de campagne électorale européenne où normalement, s'il y a des débats politiques à l'université, il faut que ce soit dans un esprit de pluralisme et d'apaisement. Là, ce qu'on voit, c'est Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, tous les deux en conférence. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires, et ce n'est pas leur destination. C'est là-dessus que j'ai souhaité alerter le président de l'université en particulier.
Ces derniers jours, plusieurs prises de parole publiques de candidats LFI ont été annulées. Cela a été le cas à l'université Rennes 2, où Jean-Luc Mélenchon devait s'exprimer en compagnie d'Emma Fourreau, 9e sur la liste de LFI aux élections européennes. Et on sait qu'il y a un public qui est particulièrement réceptif dans les universités. Que voulez-vous dire ?
C'est surtout l'affiche qui pose problème. C'est-à-dire que sur l'affiche, vous avez un logo de l'association étudiante qui organise cette conférence, sur laquelle on voit une carte de la Palestine qui recouvre totalement Israël. Donc, c'est-à-dire, c'est un logo antisioniste qui prône la fin pure et simple du seul État juif au monde.
Joachim Le Floch-Imad, qui connaît bien le monde enseignant, puisque vous-même vous enseignez.
Oui, puis j'ai étudié à Sciences Po, donc j'ai vu tout un tas de dérives qui se manifestent à l'Université de Lille. On voit bien, à travers l'organisation de cette conférence, que la gauche mélenchoniste se vautre une fois de plus dans le déshonneur, dans le clientélisme, en reprenant à son compte tous les éléments de langage, tous les codes du Hamas, hein, non sans un certain succès, puisque Mélenchon en fait 70% chez les musulmans à la dernière présidentielle. Maintenant, est-ce que tout ça est surprenant? Je ne pense pas. Enfin, il y a toujours eu au sein de la gauche intellectuelle, politique, littéraire, une détestation profonde d'Israël et un antisémitisme viscéral. Enfin, il y a qu'à reprendre les propos de Sartre, de Foucault, qui était totalement fasciné par la figure de l'ayatollah Roménie, Jean Genet qui parlait d'Israël comme une ecchymose sur l'épaule musulmane. Maintenant, est-ce qu'il faut interdire cette conférence? Honnêtement, je suis pas sûr. Autant je suis le premier à être écœuré par tout ce qui va s'y dire, autant est-ce qu'on peut dénoncer la cancel culture à longueur de temps et reproduire ça et permettre à ces gens de se poser en victime ensuite? Je sais pas si c'est la bonne méthode stratégiquement.
Madame Spielbou, je rappelle que vous êtes députée Renaissance. La décision, alors c'était jeudi 18 avril, donc c'était après-demain, on est le 16 avril aujourd'hui. Quand est-ce que la décision sera prise? Qui la prend? Est-ce que c'est le préfet? Et sur quelle base légale, une fois que vous avez mis en place vos arguments, quelle base légale sera prise en compte? L'ordre public?
Il y a pour moi deux moyens d'action. D'abord, le président de l'université a un règlement intérieur qui dit que les locaux universitaires doivent être réservés à l'enseignement et au débat dans l'enseignement. Si on considère que cette conférence de la France insoumise avec des personnalités notoirement antisémites est en fait un meeting électoral en campagne européenne, je pense qu'il a les moyens de décider d'annuler cette conférence. Et puis le deuxième point, vous l'avez dit.
Du courage. Et ça, le courage pour un président d'université, c'est pas forcément la chose la plus répandue.
Et de la ministre de l'enseignement supérieur.
Et de la ministre de l'enseignement supérieur qu'on n'entend pas comme toujours.
Comme d'habitude.
Parce que les universités sont indépendantes, c'est cela.
Non, mais c'est là la question que je voulais poser justement à Mme Spielbou, c'est-à-dire est-ce qu'elle a fait part également de sa position à Mme Sylvie Retailleau, qui est aux abonnés absents là en ce moment.
Et comme tous les ministres de l'enseignement supérieur depuis des années.
Elle, particulièrement.
Sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, on ne les entend jamais.
Elle particulièrement, quand même. Hein.
Oui, enfin...
Frédéric Vidal avait tenté...
La question est posée. Est-ce que vous avez eu un échange avec la ministre de l'Enseignement supérieur?
Oui.
Alors, j'ai bien sûr alerté son cabinet, mais vous savez, que ce soit le président de l'université ou le préfet du Nord, chacun souhaite aussi être respectueux du droit. Donc, moi, je fais une alerte politique. J'ai un président d'université qui est courageux, avec qui il y a un vrai dialogue, qui défend l'université, mais qui est aussi soumis à ce qui se passe dans la société tout entière, c'est-à-dire un entrisme de la France insoumise avec des pressions, de l'agression, des menaces, y compris sur des étudiants d'autres bords politiques qui voudraient, eux, organiser des conférences et qui n'osent pas le faire, qui n'osent plus le faire dans nos universités. Et puis, quant au préfet du Nord, bien sûr, j'ai eu un échange avec lui. Lui, il n'agira que s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Je vois une mobilisation d'associations étudiantes pour s'opposer à cette conférence dans des locaux universitaires. Eh bien, je crois que s'il y a un risque à l'ordre public, peut-être elle sera annulée.
Merci.
Terme d'alerte politique.
Merci beaucoup, Violette Spielbou. Je disais tout à l'heure que vous êtes une députée Renaissance et vous êtes en Estonie. Qu'est-ce qu'une députée Renaissance fait en Estonie?
Alors, d'abord, je fais un voyage privé avec mon mari.
Ah, excusez-moi. Non, si c'est privé, il n'y a pas de souci. Je pensais que c'était... Donc, je retire ma question. Ma question n'a pas lieu d'être.
J'en profite pour visiter Tallinn, qui est une ville très inspirante pour l'île 2026. Voilà, vous savez tout.
D'accord, effectivement.
Pour l'île 2026, parce qu'elle sera candidate au municipal, c'est le message.
Ah bah, Ça ne m'a pas échappé. Mais vous avez bien fait de le souligner, cher Gauthier Lebret. Merci beaucoup, Madame Smilbou. Et j'allais dire, bon, c'est vrai que c'est la période de vacances scolaires en ce moment.
Absolument.
Donc,
la deuxième semaine.
Nous sommes d'accord. Yvan Lecoz est un des représentants de l'UNI. Il est intervenu également sur ce sujet.
Par le biais d'infrastructures publiques, donc par le biais de nos universités, et souvent d'ailleurs invités par des organisations subventionnées aussi par l'argent des Français, ils viennent tenir des meetings politiques à l'université. Je pense qu'il y a deux publics à qui ça peut plaire. On a d'abord un public d'extrême gauche qui est convaincu par le discours de la France insoumise, et on a également un public qui est un public souvent un électorat musulman que la France insoumise essaie en permanence de séduire. Et d'ailleurs, on a pu voir lors de la dernière élection présidentielle que ce public a été séduit. Et c'est pas n'importe quel électorat musulman, c'est un électorat musulman qui est souvent très radical.
Je vous ai montré hier le meeting à Montpellier où Madame Rima Hassan avait pris la parole, qui est septième, je crois, sur la liste de la France insoumise.
Donc, éligible, hein.
Exactement. Et Monsieur Bensoussan, je le rappelle, essayiste, qui était ce matin avec Sonia Mabrouk, a parlé de Rima Hassan.
Le grand, c'est Palestine libre du fleuve à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate demain élue qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française.
C'est intéressant, et il le dit avec beaucoup de courage, là encore, Georges Bensoussan. Voyez cette séquence que je vous ai montrée hier, où dans un meeting, des jeunes gens français crient « Israël assassin ». Il y aura une liste Free Palestine, disiez-vous.
Oui, absolument. Il y aura de la concurrence donc pour la France insoumise aux européennes. Oui, une liste européenne Free Palestine qui va se coordonner. Il y aura une coalition, ça sera annoncé à Bruxelles la semaine prochaine, qui va se coordonner dans plusieurs pays européens. Il y en aura une en Belgique, il y en aura une en Allemagne, il y en aura une en Suède. Et en France, c'est l'Union des démocrates musulmans français qui va mener cette liste. Leur programme est simple, la disparition pure et simple de l'État d'Israël, avec le même logo qu'on a vu sur l'affiche de la conférence de la France insoumise. C'est pas la première fois qu'ils se présentent à une élection. Ils l'ont fait aux législatives où ils ont fait des mauvais scores, leurs candidats autour de 1%. Aux dernières européennes, plus de 20 000 voix. Ils visent surtout les municipales parce que dans certaines villes, par exemple Garges, Légonesse et Mantes-la-Jolie, ils ont fait autour de 7% aux dernières européennes.
C'est ça d'ailleurs que n'a pas compris, je pense, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, c'est que la logique la logique, c'est d'avoir après une liste complètement indépendante de Jean-Luc Mélenchon.
Évidemment.
Évidemment.
Oui, mais pas à la présidentielle.
Pas à la présidentielle. C'est que lui-même sera exclu.
C'est les municipales qui les intéressent.
Voilà. Oui, ils peuvent gagner des villes. Quand vous faites 7%. Bon.
Georges Bensoussan, vraiment dont la parole est forte, intelligente, courageuse. Il a parlé de Jean-Luc Mélenchon et évidemment, ce qu'il a dit fera fortement réagir. Écoutez.
Ce parti LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'était le PPF à partir de 1938-1939.
Alors les gens ont oublié sans doute Jacques Doriot qui était un ouvrier au départ, qui a milité aux Jeunesses socialistes, qui a adhéré au Parti communiste et il préconisait une politique de collaboration avec l'Allemagne dès 1939. Il dirige le journal collaborationniste Le Cri du Peuple. Il s'engage en 1942 dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, combattant sous l'uniforme allemand. Donc évidemment, le parallèle fera réagir. Bah, Je vous ferai réagir tout à l'heure, parce qu'il est déjà 9h22.
Oui, rapidement, il faut réagir. Les personnes qui peuvent s'intéresser à l'histoire politique regarderont aussi le parcours du courant lambertiste auquel appartenait autrefois M. Jean-Luc Mélenchon.
Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Et Charlotte, qui ne s'est pas exprimée dans ses premières 20 minutes, aura également, bien sûr, la parole. Souvent, on me dit, laissez parler Charlotte.
Oui, mais je vous laisse parler pour ensuite.
Exactement.
Je n'aime pas qu'on me dise ça
parce que j'aime vous écouter. Comme j'aime écouter Jean-Pierre Foucault, Monsieur Foucault, qui est là.
Comment allez-vous, Monsieur Pro?
Écoutez, remarquablement. Et vous?
Ben écoutez, pas trop mal, je m'y fais à Europe 1 finalement.
Mais bien sûr, alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier que vous êtes sur Europe 1 toute la semaine, que notre ami Thomas Hull a le joker de luxe le plus exceptionnel de la profession, Jean-Pierre Foucault himself.
Il faut bien le reconnaître.
Exactement, et là vous êtes à l'antenne jusqu'à 11h sur Europe 1. Nous vous embrassons cher Jean-Pierre et nous vous disons bonne émission. Il est 9h23, on marque une pause, on revient avec effectivement la déclaration de M. Bensoussan qu'on pourra réécouter d'ailleurs et l'interprétation qui en sera faite. À tout de suite. Il est 9h30 pile et Somaïa Labidi est avec nous.
Comme un air de Grèce antique à Olympie, jour J pour l'allumage de la flamme, cérémonie qui débutera à 10h heure française devant les vieilles ruines du Temple des Rats et la nageuse Laure Manaudou sera la première relayeuse tricolore à porter la fameuse flamme. Coup d'envoi de l'opération Place Nette à Mayotte pour lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine. 1700 gendarmes, policiers, militaires mobilisés pour cette opération qui doit durer 11 semaines au total. Et puis il reçoit la citoyenneté australienne pour récompenser sa bravoure lors de l'attaque au couteau qui a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi. Damien Guéroux, un Français de 31 ans, a brandi un poteau face à l'agresseur pour l'empêcher de progresser. Une courte vidéo devenue virale en Australie.
Merci Somaïa et on va revenir sur l'image que vous nous avez proposée parce que cette image est belle et c'est vrai qu'il y a peu de moments aujourd'hui où nous pouvons montrer des séquences de charme et de plaisir et d'intensité. Cette séquence de ces jeunes femmes qui arrivent à Olympie, c'est aujourd'hui visiblement que la flamme...
Je crois que c'était le
à 11h.
Oui.
Que dites-vous? Vous riez encore,
je crois que
Vincent.
C'est le puits du fou, voilà ce qu'il a dit. Non,
Vincent Herfouette dit c'est le puits du fou. Mais vous êtes. Il n'y a... Vous avez perdu.
Oh, il y a la beauté en mouvement.
Non, non, c'est beau, c'est vestal.
Vous avez perdu.
C'est beau, cette Grèce. Cette Grèce antique, c'est tellement beau.
Vous tournez tout en dérision.
Rien du tout.
Hier, vous avez dit je regarderai même. Cette phrase. Toute la nuit, j'y ai pensé.
Quoi ?
C'est vous avez dit, je ne regarderai
mais
pas.
Dormir, dormir la nuit.
Je me suis relevé la nuit.
Plusieurs fois. Tout s'explique.
Puisque vous avez dit, je ne regarderai même pas la cérémonie d'ouverture. Je me dis, qu'est-ce qui
si
peut se passer
en fait.
Dans un cerveau français pour précisément, de manière volontaire, faire autre chose, aller manger des crêpes à Guérande ce jour-là. Vous irez manger des crêpes à Guérande pour ne pas.
J'ai honte.
Je me dis, mais qu'est-ce que. On n'est vraiment pas fait pareil.
Je me fous éperdument de la cérémonie d'ouverture.
Mais je sais.
Toutes ces espèces de grands branles autour des jeux m'ennuient terriblement. J'aime bien les nageurs dans leur bassin.
Oui, mais je sais, mais je me dis, pourquoi moi ça m'intéresse et pas vous? C'est ça ma question.
Oui.
Voilà.
Je ne sais pas pourquoi j'ai une part de nez.
J'y réfléchirai la nuit prochaine.
Comment ?
J'essaierai d'y réfléchir la nuit prochaine.
Mais non, mais c'est intéressant. Donc, et c'est Laure Manaudou qui va être la première.
Absolument. Première française à porter la flamme.
Exactement. Et la dernière, on ne sait toujours pas.
Non.
Vous avez un choix pour le dernier celui qui va allumer la grande vasque ? Vincent Hervouette.
Il s'en fiche. Ça.
Vous faites du sport, Vincent ?
Les dominos, la terrasse des cafés.
Mais oui, mais ça vous a manqué, le sport co.
Mais oui, bien sûr. C'est le nombre de choses que j'ai ratées dans ma vie, vous n'imaginez pas. Le lancer de poids, énormément de choses.
Vous savez que le javelot, il va être obligé de déplacer les tribunes parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va en prendre une.
Oui,
ils ont lesté le javelot.
Mais...
Eh oui, ça va de plus en plus loin, le javelot.
Oui.
Je vais vous en parler, moi. Bon, revenons.
Le tir à la cible.
Revenons à Jean-Luc Mélenchon et on va réécouter ce que disait M. Bensoussan parce qu'évidemment, ce parallèle avec Jacques Doriot fera réagir forcément aujourd'hui. Réécoutons ce que disait M. Bensoussan tout à l'heure à Sonia Mabrouk.
Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'était le PPF à partir de 1938-1939.
Je suis assez historien pour le savoir. Je le rappelle, Jacques Doriot, qui avait commencé à gauche et très à gauche et préconisant une politique de collaboration avec l'Allemagne des 39, il dirige le journal Le Cri du Peuple. Il s'engage en 42 dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, combattant sous l'uniforme allemand.
Alors, revenir. Bon,
les gens, c'est un peu loin sans doute.
Ouais,
pour
nous. C'est loin. Je voudrais revenir sur quelque chose qui généralement est oublié.
Est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que c'est une bonne analyse ou pas?
Oui, sur la filiation, oui, il a raison. Pourquoi? Parce que, des personnes le savent, les journalistes politiques le savent, Jean-Luc Mélenchon a appartenu, a commencé sa carrière en étant dans le courant d'extrême-gauche qui s'appelle le courant lambertiste. Bien, du nom de son fondateur, Lambert. Monsieur Lambert, qui a fait des partis communistes trotskistes internationalistes, a appartenu à une formation lui-même qui, de 1940 à 1941, a participé par entrisme et au congrès d'un mouvement, pardonnez-moi, qui s'appelait le Rassemblement National Populaire de Marcel Déa. C'est-à-dire le pote de Doriot, pour aller très vite. Donc, quand on fait la phénologie, si je puis dire, de cette famille politique, je suis désolé, on est obligé de tomber sur le moment de la collaboration.
Et puis le grand Jacques était un magnifique orateur. Le grand Jacques, comme ça qu'on l'appelait à Clichy, il arrivait à emballer les salles de meeting. C'était un vrai tribun. Ça aussi, oui. Ça fait une parenté.
Oui, le meilleur rhétoricien de l'époque.
Sur la filiation, en fait, on comprend pourquoi Georges Bensoussan le dit. Moi, le ramener en permanence ce qui nous arrive aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale, j'ai tendance à me... J'ai peur que ça casse le débat, en fait, que ça l'empêche complètement. Mais pour revenir à ce qu'il disait, en revanche, sur la question des universités, la France insoumise accueillie dans les universités, outre la question du conflit, déjà, c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose qui me fait un peu rire dans les défenses des uns ou des autres, c'est que le préfet nous dit qu'il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. Je note que, en effet, il n'y a pas d'antifa pour menacer d'aller péter la salle si un tel vient parler. Mais il y a d'autres conférences...
Non, ils sont dans la salle.
Bon. Non, mais il y a d'autres conférences qui sont annulées à ce motif-là. Et quand on entend le président de l'université nous dire qu'il est très soucieux du droit, je rigole, en fait. Ils annulent des conférences extrêmement régulièrement qui ne se placent que sur le terrain du débat. Et en effet, là, la vraie question qui se pose, c'est aussi la question de la période électorale avec, objectivement, ce qui est un meeting et non pas un débat avec telle ou telle personne.
On termine peut-être.
Juste une chose sur « ils viennent chercher des voix ». Je pense que c'est notre problème de fond, hein. C'est que c'est pas simplement le discours, c'est qu'on dit en permanence, bah oui, il fait ça par électoralisme. Mais s'il fait ça par électoralisme, c'est que ça fonctionne et donc il y a un électorat. C'est peut-être ça le plus gros problème.
Ils ont déjà les voix, mais Mélenchon est à 55% à Sciences Po aujourd'hui, selon les sondages.
Bon, c'est ça qui va être intéressant. Bon, on termine sur les européennes parce que moi vraiment, j'essaie toujours d'être objectif, pas dire grand chose, mais le plus honnête et de regarder ce qui se passe dans l'espace médiatique. Vous en avez parlé l'autre jour, Raphaël Glucksmann, qui est plutôt bien parti dans cette élection en termes de sondage.
Bah chez les journalistes, c'est sûr.
Bon, et c'est le candidat de France Inter, effectivement, mais je m'étonne quand même que la biographie de M. Glucksmann ne soit pas aussi précisément regardée qu'un autre candidat. Vous l'avez dit l'autre jour, c'est tout à fait son droit, évidemment, à Raphaël Glucksmann, mais il a quand même travaillé avec la Géorgie, qui était un des pays les plus corrompus du monde. On peut le dire comme ça ou pas?
Oui, c'est des pays assez corrompus en général.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le factuel. En fait, tout le monde tire les conséquences.
Il y a eu la révolution des roses. Vous savez qu'il y a eu un grand mouvement en Géorgie avec l'arrivée sur la scène d'un personnage mirobolant qui s'appelait Saakashvili.
Et il a travaillé.
Et vous avez aujourd'hui en Géorgie une femme qui se bat d'ailleurs pour essayer d'arrimer son pays à l'Union européenne, alors qu'il y a un gouvernement qui est dans la dérive vers la Russie. Et cette femme est une Française.
Oui. Salomé
Zourabichvili, qui était la cousine de.
Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail de monsieur.
C'est un pays partagé. Saakashvili a été un héros de cette révolution. Ensuite, il est parti en Ukraine, où il a été gouverneur de la province d'Odessa. Donc, c'est une vie très aventureuse, avec tout son groupe, auquel participait, effectivement, appartenait.
Et qu'est-ce qu'il faisait?
Une femme qui était vice-ministre de l'Intérieur et qui était l'épouse de Raphaël Glucksmann.
Mais qu'est-ce qu'il faisait, Raphaël Glucksmann?
Il était conseiller du président.
Ça lui a été rappelé lors d'un débat sur France Inter par Jordan Bardella. Bien sûr. Parce qu'il accusait Jordan Bardella d'être pro-russe. Oui. Vous savez, entre conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et donc Jordan Bardella lui a répondu « Moi, je n'ai jamais servi un président étranger ou un régime étranger. »
Bon, voilà. Il était jeune.
Oui, mais c'est vrai que la question ne lui est pas souvent posée par les journalistes. Mais,
ce qui m'intéresse toujours, c'est le « deux poids, deux mesures bah, ». C'est tout ce qui m'intéresse. Après, chacun...
Il y a deux poids, il y a deux poids, deux mesures, parce que la vice-ministre de l'Intérieur, comme l'a rappelé Vincent Hervouet, durant le temps, l'espace où elle était vice-ministre de l'Intérieur, pardon, on torturait dans les prisons géorgiennes. Est-ce qu'on a entendu M. Glucksmann sur ce point, sujet quand même?
C'est pas choquant par rapport à son logiciel intellectuel qu'il avait travaillé pour des puissances étrangères. Enfin, on parle quand même de quelqu'un qui est, pardonnez-moi, mais un cosmopolite forcené. Il avait lui-même dit qu'il se sentait beaucoup plus proche d'un New-Yorkais que d'un Français de la France.
Oui, alors j'aime pas trop le mot cosmopolite parce qu'il est très connoté. Oui, donc on va, du monde. Voilà, c'est autre chose.
C'est un citoyen du monde.
Et là encore, peu importe, ce qui m'intéresse, je vais pas le répéter, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui sont. Tout est passé au peigne fin de leur biographie, et puis il y en a d'autres, manifestement, ce n'est pas le cas. Donc c'est un travail journalistique. Ce que vous venez de dire, par exemple, mériterait, pourquoi pas, qu'il soit interrogé là-dessus, bien évidemment, c'est tout. Ni plus, ni moins.
Oui. Il soit interrogé et non pas interpellé par des candidats.
Voilà, exactement. Ça serait intéressant. Mais bien sûr, comme c'est le candidat, on l'a dit, c'est le candidat des médias, M. Glucksmann. C'est le candidat des médias. Donc effectivement, il est traité...
d'accord avec la France Insoumise. Des cadres de la France Insoumise disent, expliquent que France Inter fait campagne pour lui.
Oui, mais c'est objectivement
factuel.
C'est factuel. Bon, une enquête préliminaire pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence aurait été ouverte par le parquet de Paris après la mobilisation polémique pro-palestinienne à Sciences Po le 12 mars 2024. Vous avez lu JF qui dit « Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste ». On se souvient de ce tweet « Limite franchie » à Sciences Po où le grand amphi occupé. Les étudiants de l'UEJF y sont pris à partie comme juifs et sionistes. Nous appelons à la levée immédiate du blocus et des sanctions exemplaires contre ces étudiants. Et bien, une enquête préliminaire a donc été ouverte. Et c'était important de le dire parce qu'on en avait parlé. On peut peut-être écouter d'ailleurs une réaction de... Non, on ne écoute pas, me dit Marine Lançon. C'est elle la chef.
C'est très décevant cette programmation.
Mais non, c'est elle la chef.
J'attendais la bagarre, on parlait de la Géorgie, j'attendais la bagarre au Parlement, pas de bagarre au Parlement.
C'est-à-dire ?
Vous avez promis des images d'une empoignade virile au Parlement géorgien.
Ah bon, moi, je vous ai...
Dans l'ordre du jour.
C'était l'ordre... Mais bon, c'était au milieu.
Écoutez, moi, je ne suis pas au courant de ça.
Ah ben voilà.
Mais découvrez ça. Vous voyez ?
Allez,
voilà. C'est celui qui vient de se faire taper, c'est un député du rêve géorgien.
Oui.
Le rêve géorgien, c'est le parti au pouvoir. Là, c'est le cauchemar géorgien ordinaire. Mais vous avez vu, il a pris une bonne droite quand même. Hein.
Mais par qui ?
Par un démocrate. Un vrai démocrate qui s'oppose à une loi sur les... Ça s'appelle cette loi, je ne sais plus comment, sur les agents de l'étranger.
C'est sur le modèle de la loi.
Qui interdit, en fait... à des partis.
C'est la loi agent de l'étranger.
Oui, c'est une loi qui impose aux organisations de déclarer combien est-ce qu'elles reçoivent de financement de l'étranger. C'est une loi qui est copiée sur celle qui existe en Russie et qui sert à la fois à intimider l'opposition, à la discréditer et en même temps à la tenir quand même.
Bon, vous voyez, finalement, ça se passe plutôt bien chez nous.
Donc vous avez, c'est la démocratie à la géorgienne, comme vous le voyez.
Oui, on n'en est pas encore là.
Il y avait 10 000 manifestants qui se sont rassemblés lundi soir à Tbilissi, en Géorgie, contre le projet de loi controversé agents de l'étranger à l'origine de manifestations d'ampleur l'année dernière et jugé liberticide par ses détracteurs.
Il y a une dichotomie à la ligne idéologique du Premier ministre et de la présidente qui ne sont pas du tout.
Ils sont candidats à l'adhésion depuis janvier dernier, quand même, à l'adhésion à l'Union européenne. Bon. Bienvenue à bord.
Bon, écoutez, puisqu'on est à l'étranger, alors disons un mot de Trump pour terminer la page étrangère, puisque Donald Trump est devenu hier le premier ex-président américain à comparaître au pénal dans un procès à New York. On l'a vu sortir, parler un peu là, un peu fatigué, peut-être.
Oui,
qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau qu'on n'ait pas dit hier? Est-ce qu'on a des images d'ailleurs de Donald Trump?
Non, il est toujours.
Bon, écoutons-le, tiens, Donald Trump, écoutons-le.
Nous avons un vrai problème avec ce juge. Nous avons un vrai problème avec beaucoup de choses liées à ce procès, y compris le procureur. Ce procès est une escroquerie. Si vous lisez tous les experts juridiques, tous les juristes d'aujourd'hui. Je n'en vois aucun dire que cette affaire devrait être intentée ou jugée. C'est une escroquerie, une chasse aux sorcières politiques qui se poursuit indéfiniment. Et nous n'aurons pas le droit à un procès équitable. C'est vraiment très triste.
Bon, on en a parlé.
C'est l'image de la dignité outragée, de la vertu. Non, persécuté, c'est... Il se victimise. C'est une bonne... C'est une... Mais en même temps, vous avez vu qu'il discrédite... Il disqualifie le juge, hein, quand même. Mm. Donc,
mais paraît-il que sur les 100 juges qui étaient là hier, il y avait 100 juges. C'est une procédure que je connais assez mal. Il y a 100 juges. Oui. Et on a demandé, est-ce qu'il y en a qui sont de parti pris? Il y en a 50 qui ont levé la main. Donc, il les a sortis. Il n'en restait plus que 50.
Ce sont les témoins.
Les jurés.
Les jurés.
Les jurés.
Oui.
Ah, les jurés, pardon.
Les jurés.
Enfin, j'ai dit les juges, vous avez raison. Les jurés.
Oui, parce les jurés. Ils ont participé à une manifestation anti-Trump, ou parfois pro-Trump. Enfin, New York, c'est quand même plus rare. Donc voilà, c'est compliqué de ne pas se positionner sur l'ancien président des États-Unis.
Vous pouvez être sûr qu'ensuite les avocats iront fouiller leur passé.
Bien sûr.
C'est quand même important parce que Charlotte a réagi très justement lorsque Vincent Herbert a employé l'expression victimise. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les précédentes campagnes de Trump, il se présente en héros. Là, ces campagnes, il se présente en victime. Et c'est différent du système. Et cette différence. Il y a l'excellent livre de Pascal Bruckner, Je souffre, donc je suis. C'est évidemment, on est dans l'air du temps.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le chapitre étranger. Mais restez avec nous, parce que non, parce que d'abord, on parlera tout à l'heure des Olympiques. Et tout à l'heure, j'ai vraiment été mauvaise langue. Parce qu'en 1972, vous avez été sélectionné parmi les jeunes comme tir à la cible.
Est-ce que vous osez
J'ai lu ça dans Presse Océan d'une édition 72. C'est vrai ou pas?
Comment? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Au stand de tir de la jeune Lia, ils ne me connaissaient. Ils ne m'ont jamais vu passer.
Tir à la cible, vous avez été sélectionné parmi les jeunes. Et c'est vrai, je le dis au public. Je le dis, comme dit William Goldadel, je le dis à la clientèle.
L'expression de ce jour. Le tir à la cible, ça se fait en plateau.
William dit ça le soir. Il dit, je parle, la clientèle va être contente. C'est assez étrange de parler des auditeurs, des téléspectateurs comme ça. Mais bon, c'est son choix. Shilty Game, revenons sérieux, parce que hier à Shilty Game, c'est pour ça qu'un policier municipal... policier municipal, je rappelle qu'on peut penser quand même à armer les policiers municipaux et rappeler la difficulté de ce métier. Et vous allez voir cette séquence qui est absolument terrible. Augustin Donadieu, cet homme qui a souffert dans sa chair en simplement faisant son métier.
Le choc est d'une rare violence. Alors que ce policier municipal tentait de mettre fin à un rodéo sauvage juste devant une école de la banlieue strasbourgeoise, il est percuté par le délinquant de la route et projeté au sol.
Donc il lui a fait plusieurs injonctions pour lui demander de stopper son engin. Et ce dernier a délibérément foncé sur notre collègue de la police municipale, le renversant. Et à l'issue de ça, il a pris la fuite et a été interpellé quelques instants après. Notre collègue de la police municipale transporté à l'hôpital.
Malgré la douleur, le fonctionnaire se relève et poursuit le délinquant de la route. Le jeune âgé de seulement 17 ans qui était au guidon de la moto non homologuée sera interpellé rapidement. Selon le syndicat Alliance, ces rodéos sont monnaie courante à Strasbourg et dans ses environs.
On a des vidéos choquantes, hein, où on a même parfois des déambulations de hordes de motos qui circulent dans certains quartiers avec justement ces motos non homologuées. Ça fait effectivement un trouble à l'ordre public assez important.
Le policier percuté a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une suspicion de fracture au poignet et de multiples contusions.
Vous voyez, ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe en tout cas dans cette séquence, c'est que vous avez un mineur de 17 ans qui fonce sur un policier. C'est-à-dire que la peur du flic, comme on disait jadis, on ne le découvre pas, mais elle n'existe pas. Et je ne sais pas si ce jeune homme prend en compte les conséquences pour l'homme qu'il peut tuer quand même, mais aussi pour lui. C'est-à-dire que tu tues un policier, t'as 17 ans, ta vie est finie. La vie du flic est finie, bien sûr. Mais la tienne, tu vas aller 20 ans, sans doute. Bon. Et qu'à 17 ans, ça ne puisse pas être dans son cerveau, en dit sans doute beaucoup sur la société. C'est-à-dire que...
L'éducation d'abord.
Et sur l'éducation, bien sûr. Mais c'est absolument incroyable. Incroyable le risque qui est pris.
Ouais, c'est exactement ce que dit Maurice Berger, vous savez, ce pédopsy qui a travaillé en centre éducatif fermé, donc avec des délinquants costaud, on va dire. Et il dit précisément, c'est là, c'est pour eux que la loi est faite, et surtout l'application de la loi, parce que précisément, ils n'imaginent pas un quart de seconde les conséquences de leurs actes de manière générale. Ils ont un problème avec eux-mêmes, avec le respect même d'eux-mêmes, et donc avec les autres, de manière assez évidente. Et donc la butée, lui, parle de la nécessité de la butée le plus jeune possible, c'est-à-dire de leur dire stop, en fait, ça vous ne pouvez pas le faire parce qu'ils ne l'imaginent pas tout seuls. Il y a un déficit d'éducation monstrueux parce que, Dieu merci, il y a beaucoup de jeunes de cet âge-là en France qui savent les conséquences de leurs actes et qui jamais ne feraient ça, mais il y en a certains, non. Et c'est pour ça précisément que la répression fait partie de l'éducation. Mais vous avez encore un discours, on dit il ne faut pas parler de la répression avant l'éducation, mais la répression est pour ces jeunes-là la première nécessité à une éducation possible, à une reprise de l'éducation possible. C'est aussi simple.
Fait. Enfin, c'est l'impunité qui est criminogène et c'est l'absence de cadre qui engendre cette hyperviolence. Enfin, ce genre d'images, malheureusement, elles sont quotidiennes aujourd'hui. Enfin, vous avez 15 000...
Non, ce n'est pas quotidien. Heureusement, ce n'est pas quotidien.
15 000 policiers blessés en fonction en 2023. 25 000 refus d'obtempérer par an, oui, malheureusement, et on s'habitue à cette violence.
Mais ce n'est pas quotidien, tant mieux d'ailleurs. Qu'un flic
peut-être pas avec une telle ampleur, mais les blessures elles sont quotidiennes.
Ce jeune homme, s'il s'arrête, il risque rien. On est d'accord. Il a fait un rodéo, il risque rien. Il s'arrête. Moi, je vous assure, c'est ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête?
Eh oui, mais c'est aux politiques de siffler la fin de la récréation. Et tant qu'on n'aura pas, pour reprendre l'expression de mon ami Jean-Éric Schottel, un bing-bang de l'autorité, ce genre de situation se perpétuera.
Bon, écoutez, il est 9h50, on va recevoir, alors ça me fait très plaisir parce que c'est vrai qu'on en a, cette actualité est tellement rude, elle est tellement lourde, on va recevoir Laurent Gérard. Laurent Gérard se met à table, il sera au Casino de Paris du 27 novembre 2024 au 4 janvier 2025, il sera en tournée après. Bon, et c'est un plaisir Laurent Gérard parce qu'il a un talent exceptionnel, parce qu'il dure, il est sur la scène depuis de nombreuses années et parce que c'est le meilleur. Bon, est-ce que vous aimez les imitateurs ?
Mais beaucoup, surtout quand ils en font leur métier.
Bon. Vous êtes un très bon imitateur, faut le dire, parce que
vous êtes un très bon amateur. Bon.
Est-ce que vous imitez quelqu'un? Parce que parfois, il y a les autres imitent.
Non, mais pas devant vous, je n'oserais pas.
Non, moi, je n'oserais pas devant Laurent Gérard, bien sûr.
Ça me fascine les imitateurs, parce que précisément, je ne sais pas le faire. À chaque fois que j'essaye, je me trompe d'accent.
Donc, vous avez imité
Mathieu Bocoté
sur
un accent de Marseille. Enfin, il n'y a rien qui va. Je n'arrive pas.
Ce qui est très drôle, c'est.
On va lui poser la question, est-ce qu'il y a des cours d'imitation?
Ah, voilà, c'est ça.
Est-ce que vous imitez? Est-ce que vous avez un personnage vous imitez ou... On le fait avant qu'il arrive parce que quand on est là, on joue pas au tennis avec Federer. Quoi.
Non, mais ça m'est arrivé, mais comme journaliste politique, mais des anciens bon. Maintenant.
Oui. Bon. Ouais. Jouer au tennis, je veux bien imiter, j'aime pas trop me donner en spectacle, donc on va éviter.
Et vous faites de la télé si vous aimez pas vous donner en spectacle?
Non, mais tout le monde n'est pas comme vous.
Oui, c'est
des gens qui font de la télé par hasard. Tout le monde n'a pas vu un jour la télé en disant téléphone maison, je veux rentrer dedans. Bon, vous imitez déjà?
Pas non, mais j'imite beaucoup.
Vous imitez vous trouvez que j'imite Pascal Praud?
Quotidiennement.
Non. Quotidiennement.
Mais justement, il m'imite de temps en temps.
Mais c'est vrai que vous avez des tics ou des phrases que vous pouvez donner. Voilà.
Ça, c'est
des
toujours phrases. Les mêmes. Moi-même, je.
Les lunettes, par exemple, qui sont comme ça.
Et les petits hommes gris.
Bon, en tout cas, Laurent Gérard va être avec nous.
C'est fini.
Et il y a parfois des gens qui l'imitent. Qui me font jubiler, comme on dit. Et ça, moi, j'adore lorsqu'on jubile, qu'on écoute un imitateur. Par exemple, quand il imite Jack Lang, quand il imitait Jean-Claude Brialy, quand il imitait Jean d'Ormesson, quand il imitait, alors ça, c'était formidable, Tony Curtis et Roger Moore, que personne ne fait. C'est formidable, les imitateurs. Oui. Vraiment, c'est formidable.
Et surtout, comme dans le cas de Laurent, il y a le texte avec.
Eh bien, exactement.
C'est ça qui fait la différence aussi.
Eh bien, il va être avec nous dans une seconde et on va pouvoir un peu sourire et, disons-le,
ça fait du bien.
Même si Vincent Hervouette tient ce rôle parfois autour de la table.
C'est interdit.
Ça peut nous faire du bien. À tout de suite. Laurent Gérard est donc avec nous et c'est un vrai plaisir parce qu'on a, tout le monde doit vous le dire sans arrêt, mais on a vraiment besoin de légèreté, de sourire.
Merci Pascal.
Et on peut vous écouter tous les matins sur RTL, en revue de presse d'ailleurs, parce que c'est de l'actualité, c'est une manière de voir l'actualité différemment. Par exemple, je sais que la flamme olympique,
oui.
ce matin, oui.
C'est quelque chose qui vous intéresse.
Oui, mais c'est ce matin, j'étais dans le taxi, et puis je dis non, il faut qu'on parle de la flamme olympique, parce que ça faisait depuis tous les journaux du matin, 7h, la flamme olympique. Au bout d'un moment, on a marre, quoi. On va pas la suivre tous les jours, non plus, la flamme olympique. On va pas aller
mais si, tout. Justement.
On avait dit qu'ici, elle est bloquée au péage de Saint-Arnoul par la CGT, on va dire, tiens, la flamme olympique peut pas arriver, quoi. Non, mais c'est on est nourri par l'actualité. Mmh. On garde quand même le côté plus léger, hein, comme vous dites.
Soumaïa Labidi nous rappelle les titres.
Déjà plus de 50 000 euros récoltés. La cagnotte en soutien au gérant du magasin Geox à Strasbourg est un succès. L'homme a reçu des menaces de mort depuis qu'une vidéo le montrant refouler une intérimaire voilée a été diffusée sur les réseaux sociaux et a dû porter plainte. Un des bâtiments historiques de Copenhague ravagé par les flammes, comme vous pouvez le voir sur ces images. La bourse, édifice vieux du XVIIe siècle, a été touchée par un violent incendie. Une flèche haute de plus de 50 mètres est déjà partie en fumée et les pompiers danois restent à pied d'œuvre pour tenter de limiter les dégâts. Et puis une sélection compliquée, aucun juré retenu pour le moment au procès de Donald Trump. Plus de la moitié d'un premier groupe de 96 jurés potentiels ont déjà été exclus à leur demande parce qu'ils se jugeaient trop partiaux. Procès dans lequel, je vous le rappelle, l'ancien président est accusé d'avoir falsifié des documents financiers.
Merci Soumaïa. Laurent Gérard se met à table. C'est au Casino de Paris et ce sera du 27 novembre au 4 janvier. C'est un spectacle qui est écrit ?
Oui, ça y est. Oui, je suis en train de le peaufiner, de le répéter. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut rajouter. J'élague un petit peu parce que je pense qu'on est un petit peu long. C'est assez riche. J'aurai des 5 musiciens parce que je vais pas mal chanter dans le spectacle. Je vais faire notamment les chansons qu'on peut plus chanter. Bah, Misogynie à part de Brassens, Ouvrez les maisons de Jean-Yann. Voilà, des chansons qui font partie du patrimoine et qu'on peut plus chanter. Donc oui, c'est un spectacle de musical, hein. Il n'y a que ça que je sais faire, donc avec des musiciens, avec des sketchs, un peu de politique, et puis voilà quoi.
Bon, est-ce qu'il y aura des nouvelles, il y a des nouvelles voix?
Il y a Pascal Praud qui sera dans. Bonjour. Donc, vous serez dans le spectacle.
Mais paraît-il, j'ai demandé à Marine de chercher parce que j'ai vu ça ce matin. Il y a un petit Mathéo qui est venu sur l'antenne de RTL qui serait mon petit garçon poserait des questions.
C'était RTL Junior, ils font poser des questions à des enfants. Donc j'ai fait votre voix avec une voix d'enfant.
Bon, mais hormis moi, est-ce qu'il y a des nouvelles voix? Alors, bien sûr, on se demande toujours comment un imitateur travaille, si tant est qu'on puisse travailler. Est-ce qu'il y a des cours d'imitation? Oui. Tout à l'heure, Charlotte, c'est très intéressant, elle disait, moi, quand je veux imiter Bock-Côté, je prends l'accent marseillais. Donc, est-ce qu'il y a des cours d'imitation? Ou est-ce que c'est le don pur?
Non, il n'y a pas de cours, parce que c'est... je pense que c'est un don, ça, indubitablement, mais sans prétention aucune, hein. J'ai d'autres collègues, donc non, c'est une perception qui est un petit peu différente, je pense, parce que je suis cobaye pour le CNRS et c'est vrai qu'ils ont fait des études sur la voix, etc. Et c'est très très intéressant, c'est quelque chose qui est passionnant, la voix c'est ce qu'on a de plus personnel. Donc non, il n'y a pas de cours d'imitation. On peut changer sa voix, on peut modifier sa voix, ça c'est sûr. Et puis après, il faut que ce soit un révélateur, c'est-à-dire que le téléspectateur ou le spectateur dit « Ah bah oui, c'est vrai que lui, il fait comme ça.
» Sauf que nous, oui, mais quand vous m'imitez, par exemple, c'est pas vraiment ma voix, vous avez chopé autre chose, et parfois vous chopez aussi autre chose, une sorte de psychologie, comme si vous entriez dans une sorte, il y a un côté psy, d'épouser parfois. Non mais, il y a vous voyez, par exemple, ce qui a été le plus extraordinaire, peut-être, dont on vous a beaucoup parlé, c'est l'imitation de Hollande. Elle est incroyable, l'imitation de Hollande. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu Laurent sur scène, mais il dit rien. Pendant combien de temps ?
7 minutes.
Bon, et c'est un numéro, c'est exceptionnel.
Mais j'aime les films muets, donc j'aime le burlesque. Et dans le nouveau spectacle, parce que je le faisais parler à un moment donné, là je ne vais pas le faire parler du tout. Je vais le faire comme dans un film muet avec des panneaux, et on va décrire ce qu'il va faire.
Oui, mais vous avez son visage. C'est
bon,
ça
merci.
Qui est fou. Mais non, mais pendant quelques
années. Je ne sais pas comment je vais le prendre.
Mais non, mais
oui,
vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que.
C'est une question de posture.
En fait, vous n'avez pas son visage. Mais par les expressions, vous devenez. Et c'est pour ça que le public, il accroche. Parce qu'il dit. C'est incroyable.
Enfin, on avait un beau modèle quand même. C'est-à-dire qu'il avait un côté très burlesque, quand même, François Hollande. Donc, il suffit de, ouais, mmh. il suffit de recopier un peu et puis d'exagérer à peine.
Mmh. Bon. Est-ce qu'il y a des.
C'est un plaisir.
Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des. Quand je disais des nouvelles voix aujourd'hui, est-ce que vous faites entrer des nouvelles voix politiques? Par exemple, Bruno Le Maire, j'ai l'impression qu'il est difficile à imiter. Oui, Gabriel Attal, c'est compliqué. Emmanuel Macron, vous avez trouvé une manière de l'imiter qui est.
Oui, oui, un peu puéril.
Puisque
vous... Non, mais quand vous regardez le gouvernement, il n'y a pas de voix qui sont vraiment identifiables. Sincèrement. Hein.
La dernière, c'était Jean Castex, peut-être ?
Ouais, Castex, oui, Castex, un petit peu Véran, mais bon, maintenant il fait de la chirurgie esthétique. donc, mais c'est vrai. Et puis surtout, leur faire dire quoi ? Oui. Quel tic de langage ils ont? Ils n'ont pas vraiment de tic de langage. Il faut que la voix fasse écho auprès du public. Donc, effectivement, je vais refaire Nicolas Sarkozy dans le spectacle parce que j'ai envie de dire, enfin, c'est ce que je dis dans le. C'est que c'est un spectacle qui va se passer dans un restaurant, c'est nouvelle carte et plat signature parce que je pense que le public a aussi envie d'avoir des personnages un petit peu emblématiques. Comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, comme le président de la République, parce que c'est incontournable de le faire. Mais c'est vrai que je vois pas comment je vais faire marrer avec certains membres du gouvernement. Il y a une crise de voix.
Il y a une crise de voix.
Même dans le cinéma. Vous savez, je préfère faire Belmondo que je sais pas ou que de faire Pierre Ninet. Quoi. Je sais pas.
Et ce qui est toujours drôle, alors ça se fera j'imagine pendant la prochaine présidentielle, c'est lorsque vous imitez en l'occurrence Nicolas Sarkozy devant lui. Et on voit beaucoup de choses d'ailleurs des personnalités des uns et des autres. Parce que en fait vous avez presque déposé comment il faut imiter Sarkozy. Puis après plein de gens imitent Sarkozy comme vous avez mis un peu la grille. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens après qui imitent, mais ils imitent l'imitateur qui a déjà piqué tout ce qu'il fallait sans doute piquer. Et là on voit Nicolas Sarkozy, il y a deux ou trois séquences, mais il est mort de rire en vous écoutant parce que là aussi ça va au-delà de l'imitation. Quoi de l'imitation ? En fait, il y a quelque chose de la caricature. Vous chopez, vous piquez, vous prenez quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'esprit. C'est ça que je trouve fort. C'est pas que vocal.
Mais c'est parce que ça me passionne aussi. Hein. C'est mon métier depuis une trentaine d'années. Mais c'est vrai que ça me passionne. J'ai toujours aimé regarder les débats politiques. J'ai toujours aimé regarder les films. Donc on est un peu des éponges par rapport à ça. Mais c'est de la façon d'incarner. Effectivement, il faut savoir ce qu'on leur fait dire, ce qu'on va faire dire aux personnages. Mais on se sert aussi de leur tic de langage. Et effectivement, de leur psychologie. Enfin, moi, j'aime pas trop ce mot, mais.
Alors, il y a une imitation que vous avez faite qui est formidable, et puis elle est venue un peu par hasard, puisque Jérôme de Verdière, moi, je suis camarade avec Jérôme de Verdière, qui écrivait, je sais pas s'il écrit toujours des textes des auteurs, pour vous, voilà. Et l'imitation de Pierre Arditi est arrivée un peu par hasard. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que vous la.
C'est souvent.
Et alors, comment elle arrive, par exemple? Et puis, elle est géniale, en fait. Du coup, elle est géniale. Et d'ailleurs, Arditi, je l'ai vu sur votre plateau, il est mort de rire. Lorsque vous l'imitez, d'abord parce que c'est gentil et bienveillant, et puis
oui, oui.
Alors qu'est-ce, par exemple, d'ailleurs, il dit, c'est pas possible, cet homme souffre.
Oui, oui, cet homme a mal. On n'en peut plus. Non, mais là, sortez-moi de là. Donc, on cherchait un râleur, et effectivement, Pierre Arditi a souvent cet esprit râleur un peu. Non, mais arrêtez, c'est pas possible. Non, mais là, cet homme a mal. Pascal Brault souffre. Non, mais là, sortez-le de là. Et vous, c'est pareil, par exemple. Je vous avais capté sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit, mais c'est vrai que c'est souvent par la radio. Votre collègue Philippe de Villiers, je me souviens, c'était sur une phrase, c'était « Soulever le traité de Maastricht et vous trouverez François Mitterrand ». C'était parti. Et c'était sur Maastricht, ce qu'il disait Maastricht. Et après, je dis « Ah oui, c'est vrai qu'il parle comme ça ».
Bon,
mais c'est la prosodie aussi, c'est ce qu'on appelle c'est la prosodie, c'est la musicalité de la voix qui est importante.
Ouais. Mais alors, bon, aujourd'hui, je suis sur Europe 1. Alors, quand j'ai quitté la radio.
J'y ai été aussi.
Voilà. Et je me suis dit, mais ils vont plus, voilà, ils vont me laisser tomber. Mais alors, pas du tout, l'heure des pros pour vous, c'est une mine, j'ai l'impression, l'heure des pros. Parce que,
mais bien
alors,
sûr.
Laurent
vous
Geoffrin.
C'est un personnage emblématique.
Non, c'est l'heure des pros. Mais Laurent Geoffrin n'est plus avec nous.
Oui.
Hein, mais bon, vous lui mettiez
un baillon.
Je crois un baillon. il n'avait pas le droit de parler. Alors là, il y a moins de peut-être. Il y avait Yvan Rioufol également. Il y avait alors Elisabeth Lévy. Vous n'êtes pas gentille avec Elisabeth.
Si, vachement.
Attendez, vous la faites passer parfois pour.
Pas du tout.
Un petit peu.
Ah bah non, je lui ai laissé un mot hier pour lui dire qu'elle m'avait bien fait rire avec l'histoire des JO.
Oui. Bon. Il y a des gens qui ont voulu. Pardonnez-moi, vous casser la gueule.
Au début, Johnny, puis après, ça s'est bien passé. Ah oui. Et puis, il y en a qui le prennent moins bien. Mais
aujourd'hui encore ?
Johnny, ça m'embêtait parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais il y en a, ouais. Ça ne me dérange pas qu'ils le prennent mal, hein, sincèrement. Bon.
Mais bon,
je ne vais pas m'encombrer de ça, sinon je ne fais rien.
Quoi. Oui, mais aujourd'hui.
Et surtout, il y en a qui méritent.
Qui méritent ?
Il y en a qui méritent. Mais bon. Je le dis en spectacle, je n'ai pas à donner mon avis en dehors. Bon. j'ai le droit à la satire, donc je peux le faire dans un contexte satirique, et ça, c'est un vrai luxe.
Bon, aujourd'hui, en tout cas, tout le monde sait que c'est sans doute contre-productif d'essayer, par exemple, Régis Ravanas, qui est le dirigeant RTL, est-ce que de temps en temps, il vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui passent et qui font passer
des messages ? Non. À l'époque, à Europe 1, justement, il y avait Giscard qui n'était pas très content.
Ah bon ?
Qui avait appelé Lagardère, oui. Il n'était pas très content, oui.
Parce que vous le faisiez passer pour...
Le clergé aussi, il n'était pas ravi une fois sur un truc qu'on avait fait. Donc on avait vu, un ecclésiastique. Donc j'étais allé le voir. Hein. Mais non, en règle générale, on sait que c'est dans un contexte satirique. Il y en a qui le prennent moins bien. Bah,
bon, est-ce que vous diriez aujourd'hui... depuis combien... Votre premier spectacle, c'est quand ?
Quand j'ai commencé ?
Ouais.
89, ouais, donc 99, première Olympique.
Donc on est sur 35 ans.
Quasi,
donc,
oui.
Bon, vous allez être l'imitateur qui aura travaillé peut-être le plus longtemps, qui va travailler le plus longtemps en France, qui a un lien très particulier en plus avec le public, puisque ce public ne vous lâche pas. Et des imitateurs, il y en a qui passent, si vous me permettez. Hein.
Non, mais alors après, on fait pas un gof. Moi, je suis de l'école de Michel Drucker, c'est la durée.
Oui.
Et puis surtout, c'est que je viens de la province et que je mets un point d'honneur à toujours aller à la rencontre du public dans nos départements, dans nos belles régions. En plus, on peut aller l'utile à l'agréable parce que comme j'aime bien quand c'est la graine, maintenant on a un réseau. Mmh. Donc c'est plutôt agréable. Mais non, je pense que ça s'entretient. Et puis il ne faut pas faire trop de présence à la télé non plus parce que les gens vous ont gratuitement. Les temps ont changé. Hein. Vous savez, je suis pas... on n'a pas la science infuse, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, j'espère que le public sera au rendez-vous et j'essaye de proposer à chaque fois un spectacle différent. C'est pour ça que celui-là, il sera dans une cuisine. Parce qu'il y a, un point commun entre la gastronomie et puis la gastronomie et le spectacle, c'est qu'on a envie de donner du plaisir.
Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a, sur ce marché-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de... Bon, et que c'est difficile, je ne sais pas si vous voyez, vous, des jeunes gens, par exemple, qui ont 20 ou 25 ans, je sais qu'il y a Pierre-Antoine Lebret qui est sur
RTL. Marc-Antoine
Lebret, le soir. Alors, il y a ceux qui, effectivement, peuvent avoir du talent vocalement, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel, curieusement, c'est autre chose.
Je pense qu'il faut des textes, et puis il faut un peu rentrer dedans. Moi, je vais être un peu, avec ce spectacle-là, je ne vais pas me faire que des amis, mais tant mieux. On va un petit peu à l'encontre du wokisme, du néo-féminisme, et puis de... Voilà, mais...
Bon, parce que vous incarnez, effectivement, un Français...
Je sais pas ce que j'incarne. J'essaye de faire marrer, Français, surtout. Vous savez, j'ai un peu toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges dans les spectacles. C'est ça qui est intéressant. Je vais avoir
mais Télérama dit moins... Sans doute, ou Libération ne dit pas forcément toujours du bien de vous.
Oui, bon, on s'en fout.
Oui.
Alors, je n'ai jamais été atteint par les critiques dans les journaux. Sinon, on devient fou. Puis alors, maintenant, avec les réseaux de cas sociaux, c'est encore pire. Alors,
mais vous, par exemple, vous n'êtes pas du tout sur Twitter,
non, je lis des livres et puis je regarde des films. Et c'est une perte de temps, d'énergie. Mmh. Donc, j'appelle vraiment ça des réseaux de cas sociaux. Quoi.
Bon,
en plus, ils font des fautes.
On a peut-être une ou deux surprises.
Très approximatives.
on a peut-être une ou deux surprises à vous proposer. Alors, effectivement, ce matin, d'abord, j'ai que des filles. Hein.
Oui.
Bon, et là, c'est un petit garçon que vous avez mis et il s'appelle Mathéo. Mathéo Pro, écoutons.
Ah.
Mathéo Pro, vraiment la planète serait sauf. Comment se fait-il que la semaine dernière j'ai pu faire du ski à Val d'Isère en plein mois d'avril ?
Séquence aberration, c'est la question préférée des climato-sceptiques, je refuse donc d'y répondre.
Très bien, alors...
Bon, voilà, donc vous nous faites en plus passer...
Pas très révélateur.
Des... Ouais, vous nous faites passer pour des ringards parfois,
Pas du tout.
Bah, climato-sceptiques, et même l'heure des pros, vous nous faites passer pour...
Ah non, mais alors, vous savez, je ne fais que les émissions que je regarde, mon cher Pascal.
Est-ce qu'il y a eu des personnes...
J'en fais pas beaucoup.
On va voir quand même un extrait, peut-être. Alors, non pas un extrait du...
C'est un extrait du spectacle ? Non, c'est un extrait de l'entrée du spectacle, parce que vous ne le tournez pas avant d'être au Casino de Paris.
Je joue dans un mois à Annecy, je commence dans un mois à Annecy avec une première partie de tournée, puis après je repars en tournée et le Casino. Donc, je ne peux pas avoir d'image, parce que pour l'instant, c'est qu'au niveau de l'écriture et de la conception. Mais ça, c'est vous avez passé quoi ?
Ben, je ne sais pas ce qu'on va passer. Voyons.
Non, parce qu'il y a 18 ans.
2006.
Ah bah oui, c'est ça. Donc,
Laurent, il
y a une histoire par rapport à ça.
Dites-moi.
Je crois que c'est la séquence sur Gérard Miller.
Oui.
Parce qu'il y a à peu près 18 ans, je crois, c'est ça. Donc j'avais fait une chanson sur Gérard Miller dans le spectacle. Et qui a toute sa signification maintenant.
Clairvoyant.
Oui, je montais un cabinet de voyance.
Écoutons.
Chaîne publique ou TF1 qui vient souvent être les mêmes. Chaîne payante qui ne parle plus rien. Vous êtes l'objet de ma haine. C'est à cette télépoubelle que je dédie ces quelques meilleures manières de foutre un peu le bordel et d'exorciser ma colère. Car dans toute cette médiocrité, on n'a pas trouvé plus vulgaire, plus dégueulasse et plus taré, à part bien sûr Gérard Miller.
Je salue Norbert Saada qui nous écoute et qui dit effectivement qu'il est un de vos amis et qui dit Laurent connaît le cinéma mieux que beaucoup. Dommage qu'il soit un des seuls d'ailleurs. Et c'est vrai que vous avez. Alors, au cinéma, vous avez fait des téléfilms. Je ne sais pas si vous avez fait
cinéma. Oui, j'ai tourné avec Eddie Mitchell là récemment sous la direction d'Hélène Filière. Et voilà. Non, j'aime beaucoup le cinéma parce que j'ai fait des études de cinéma. Ce qui est. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je regarde beaucoup de films, pas trop des films récents, mais je suis désolé. Hein.
Non, mais il y a pas.
Non, mais c'est-à-dire que
là, je suis quand même pas comme vous. Moi, je vais au cinéma, par exemple, tous les samedis après-midi.
Oui.
Très souvent.
Ah, oui.
J'ai vu Nous les Leroy.
Oui.
J'ai vu.
J'ai pas vu.
C'était samedi. Bon, j'ai vu Charlotte Gainsbourg et Garcia, et puis deux jeunes comédiens. C'est un bon film.
Oui, mais
c'est bien écrit. Il y a une volonté de. C'est un film parfois un peu bancal parce que toutes les scènes, il y a des scènes qui sont moins réussies que d'autres. T'as envie de dire, il aurait peut-être travaillé plus, ça aurait encore été bien. Mais il y a des choses dans le cinéma français. J'avais vu Tony avec
Camille Cottin.
Avec Camille Cottin, j'ai trouvé ça formidable. Il y a quand même
Tony
des films
famille.
Français. Et bon, j'adore Delon et. Et Belmondo et Gabin, mais...
C'est les jeunes pour moi.
Mais forcément, il y a quelque chose alors, on peut vous caricaturer de ce point de vue-là, de dire c'était mieux, c'est vivement hier.
Bah oui, mais c'est assumé. C'est-à-dire, je préfère... Vous savez, j'ai un copain qui disait préférer Mozart à David Guetta, c'est pas être passéiste, c'est avoir du goût.
Bon.
On va pas vous demander votre avis sur Aya Nakamura, alors.
Oh là. Non. Je sais que ça fait... Mais c'est pas une question de... C'est que c'est, quand on écoute les paroles de ces chansons, je vois pas pourquoi... C'est stupide. Moi, je veux bien être ouvert d'esprit, mais bon, là, quand même, on en a choisi une, là, c'est quand même pas mal. Là, pour nous, c'est bien. Pour les humoristes, c'est bien. J'avais fait un jour Luchini qui lisait des paroles d'Aya Nakamura. C'était d'ailleurs Jérôme de Verdier qui avait écrit le sketch, je crois. Et non, mais
Jack est pas ça.
Oui, c'est intéressant. Hein. Mais vous savez, c'est aussi pourquoi j'aime aussi les choses du passé. Et c'est parce que le manque de culture à notre époque est terrible. Donc, il faut se nourrir aussi de ce qui a été fait avant pour éclairer le présent.
On va vous réserver peut-être une surprise, si tant est que nous arrivions à avoir cette surprise. Mais vous voyez, quand on a préparé l'émission avec Marine Lançon, et puis on est avec un jeune garçon qui s'appelle Félix Perola, je lui ai dit, mais on vous interviewe depuis tellement de temps que toutes les questions ont dû vous être posées. Je leur ai dit, mais essayez d'imaginer des questions auxquelles il n'a peut-être jamais répondu. Et c'est vrai que je crois que c'est Marine qui a trouvé ça. Que feriez-vous si vous n'aviez plus de voix? Est-ce que c'est une...
Bah, je ferais François Hollande.
C'est ça la réponse.
Non, non, bah, mais est-ce que c'est une sorte de hantise en permanence, bah, de sûr, protéger là, votre voix? Par exemple, là, il y a de la clim quand vous allez dans un hôtel. Vous fumez pas?
Ah, j'ai jamais fumé de ma vie, non. Mais
L'alcool peut attaquer aussi un peu la voix. Est-ce que...
Bah, ça peut la chauffer aussi. Hein.
Ouais. Mais est-ce que c'est, par exemple...
Beko, il avait toujours un petit verre de whisky. Ça chauffe un peu. C'est pas une recommandation, hein, mais non, là, j'ai eu une extinction de voix pendant 10 jours. C'est vrai que... mais c'est viral, donc on sait que... C'est assez solide. Vous savez, les cordes vocales, les miennes sont asymétriques, mais ça reste quand même quelque chose de... Quand on l'entretient, quand on fait beaucoup de scènes, quand on fait régulièrement de la radio, par exemple, bon ben voilà, c'est un muscle qu'on entretient.
Quelle est la personnalité la plus dure que vous avez eue à imiter?
Celle que je sais pas faire. Sinon, une fois que je l'ai chopé, ça peut être comme ça. Sur un déclic.
Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez imiter et que vous n'arrivez pas à imiter?
Oui, bah oui, plein.
Mais qui, par exemple?
Je sais pas. Oui, mais après, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est ce qu'il faut leur faire dire. Mais comment j'aborde le sujet sous un angle humoristique? Je sais qu'il y a des personnages, par exemple, si je fais Alain Finkielkraut, c'est plus un personnage de radio. Pour moi, je suis pas sûr quand sur scène. Et je suis pas sûr, mais je peux essayer, ou je peux faire peut-être des petites séquences, mais sur un sketch en entier, c'est difficile.
Et quelle est la personnalité dont on vous parle le plus dans la rue, que vous avez imité? Est-ce que il y a des gens qui adorent peut-être Jack Lang?
Oui, souvent. Jack Lang, Cabrel, Johnny, oui, les classiques. C'est pour ça que je les garde en spectacle. Je les garde forcément, parce que si je les fais pas, si je fais pas un petit peu de Cabrel, Sarko, les politiques, ouais, c'est Sarko, Hollande, voilà, donc c'est ce que je fais. Mais j'avais fait des conférences un petit peu autour de ça, autour de la voix, et c'est vrai que les imitations qu'on me réclame généralement, c'est plutôt celles qui font partie d'un registre, de mon registre de base, en fait.
Alors moi j'ai des chouchous, et je sais pas si c'est toujours difficile de demander à un imitateur, si tu sais, c'est comme un humoriste dans un dîner, les gens disent fais-moi rire.
Un docteur aussi.
Voilà. Il paraît-il qu'un jour Pierre Brasseur, il en avait marre, il était arrivé dans un dîner, les gens lui disaient toujours fais-moi rire, donc il avait tiré la nappe comme ça, et puis c'était bizarre. Il avait fait venir les assiettes, les couteaux, etc. Il avait dit vous trouvez pas ça drôle? Bon, mais c'était Pierre Brasseur. Mais c'est vrai par exemple que, alors c'est les gens que vous imitez plus, mais souvent, je vous l'ai dit, j'adore quand vous imitez Jean-Claude Brialy.
Ah oui, merci.
Tellement merveilleux.
Tellement, tous mes amis sont là. Merveilleux, Jeanne Moreau, tellement délicieux, tellement merveilleux. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi celle-là, on ne la réclame plus, par exemple.
Oui. Bon,
Jean d'Ormesson, je le fais.
Alors, Jean d'Ormesson, j'adore Jean d'Ormesson.
Je voulais être heureux. Je l'ai été, bravo. Il y a dans ce bravo toute la tristesse du monde.
Le texte, tout.
Mais personne n'a jamais fait Jean d'Ormesson.
J'ai très bien connu Chateaubriand.
C'est génial.
Mais le j'ai très bien. Vous voyez, dans le j'ai très bien connu.
Au Figaro. Avant, c'était au Figaro.
Oui, vous voyez. Oui, mais dans le j'ai très bien connu, c'est une phrase. Elle dit tout de Jean d'Ormesson.
Oui.
Vous voyez, c'est ça le génie, c'est la voix, mais de choper quelque chose. J'ai très bien connu Chateaubriand. C'est ça qui fait rire, parce que c'est lui. Vous voyez, t'as l'impression qu'il a connu tout le monde. Et c'est ça qui est fort.
Il y a une anecdote avec Jean d'Ormesson, d'ailleurs. Et il m'avait dit un jour,
je t'ai écouté à la radio, je me suis dit, ce Gérard exagère. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais.
C'est le plus beau compliment.
Oui.
Je l'aimais beaucoup, Jean.
Mais oui, et alors, il y a une autre imitation, je crois que vous êtes la seule à l'avoir faite. C'est Danny Wilde et Lord Brett Sinclair. Et je crois que c'était une imitation vraiment de vos débuts.
Ah, mais tout début, parce que quand je suis monté à Paris... On vient de province, on monte à Paris. C'est vrai que je faisais voilà sa majesté, quel magnifique. Tu t'es fait tout beau, ton Altesse Daniel. Sache pour ta gouverne que ce costume a été réalisé en véritable poil de queue de lama. Ah, bah, c'est très élégant, dis donc. Si tu trouves un lama nain, tue-le et fais-toi faire un petit sac. Ah, c'était ça, mais c'est sur des vrais dialogues d'amicalement vôtre. Michel Roux et Claude Bertrand, les voix.
Michel Roux, qui était un comédien absolument formidable et qui faisait. Parce que notre génération a vu les mêmes spectacles. On a grandi avec. Il y avait deux ou trois télés, donc on a tous vu au théâtre ce soir. On voyait Bouvard, on regardait. Alors que la génération d'aujourd'hui paraît, sera éclatée, puisqu'il y a 300 chaînes. Mais nous, on avait. Tout le monde a regardé amicalement vôtre.
Oui, oui.
Comme tout le monde a regardé Columbo.
Oui, Columbo aussi, oui. Je fais déconstruit. Sa femme veut plus que l'impair, c'est patriarcal et qu'elle veut l'appeler Colombette. Donc il est très déstabilisé, Colombo.
Bon, je voulais vous faire une petite surprise et quand je la vois, je lui dis toujours tellement merveilleux, tellement formidable. C'est Jade avec qui vous êtes le matin.
Bah oui.
Et Jade qui est avec nous et je voulais simplement.
Oh, Jade. Oh, elle est avec nous.
Bon, vous voyez, on est tout à fait parce que c'est une radio concurrente, hein, bien évidemment, mais c'est pas grave. Vous êtes dans les. Ah non, vous êtes chez vous là, je pensais que vous étiez peut-être à RTL. Bon, tout va bien, Jade?
Tout va bien, c'est le papa de Mathéo?
Oui, c'est le papa de Mathéo. Mais comment parler de Laurent Gérard en sa présence, Jade, et comment définiriez-vous la complicité qui est la vôtre et qui est très important parce que votre rire dans la séquence et votre voix également, et puis parfois vos imitations, apportent à cette séquence quelque chose de réussi.
C'est gentil, Pascal. Écoutez, peu importe quand Laurent est devant moi ou pas, il le sait très bien. Je pense qu'on s'aime tous les deux depuis 14 ans, qu'il n'y a aucun problème. Travailler avec lui, c'est un bonheur. C'est très professionnel et en même temps, moi, ça m'a amené vraiment beaucoup de choses. Et c'est une pure joie de me lever à 6 heures le matin et de le retrouver. C'est tout simplement la raison du succès aussi, je pense. Parce qu'on ne ment pas.
J'ai dit l'année prochaine, on fêtera nos 15 ans de mariage.
Ouais.
Bon, et vous êtes évidemment souvent, quoi, vous êtes toujours en direct dans le studio.
Oui, je suis au studio ou quand je suis en tournée ou en préparation du spectacle, notamment, j'ai une ligne numériste, mais c'est vrai qu'il faut mettre un point d'honneur quand même, être le plus souvent en direct. Mais la magie de la radio, malheureusement, elle est filmée maintenant, donc c'est un problème. Je ne comprends pas pourquoi on filme la radio. Mais j'essaye d'y être le plus possible.
Les textes, par exemple, de demain matin sont déjà écrits ou ils vont être peaufinés cet
après-midi ? Oui, on s'est vu hier avec les auteurs. Après, ce matin, par exemple, tout le truc sur la flamme olympique, on l'a écrit ce matin parce que voilà.
Bon, on va revoir.
Ça m'énervait.
Et ça, pourquoi ça vous énerve ? C'est formidable, ça arrive une fois tous les 100 ans.
Génial.
Ça arrive une fois tous les 100 ans.
Vous voulez que... Puis ça va rien nous coûter surtout.
Le président a dit qu'on allait gagner de l'argent.
Ah, oui, enfin,
ça n'est jamais arrivé. Hein.
Enfin.
Tellement merveilleux, Jade. Jade, je remercie Jade. Merveilleuse Jade qui est avec. Bon, merci Jade. On vous fait des gros bisous. Merci
Jade.
Merci et bonne journée. Et puis il est 10h28, donc avant de se quitter, on va revoir une image qui vous a beaucoup fait plaisir aujourd'hui. Donc c'est cette image à Olympie de la flamme. Mais bien sûr. Et
vous voulez vraiment.
Ah, regardez, on a des images en direct.
La glande à venin, vous voulez vraiment la faire marcher.
Alors regardez, ça c'est une image en direct.
Ah, c'est beau.
C'est Nikos. Oh. Et vous pourriez presque prendre la voix de Léo Zitrone pour commenter.
C'est bon choix. Nous sommes en direct d'Olympie.
Et vous imitez Nikos?
Non. Ah, c'est Nikos. Ah, bah oui, on est en Grèce. Mais il a fait quoi comme sport?
c'est l'ambassadeur, évidemment. Des Jeux Olympiques pour des raisons d'ailleurs
grecques
et pour des raisons
olympiques grecques, hein, mais faut... bon. Elle chante pas en Grèce, Aya Nakamura. Déjà. Non, elle suit pas la flamme tous les jours.
On peut revoir peut-être juste les images d'hier, pourquoi pas, me dit Marine Lançon, les images d'Olympie, hein, c'est les images qu'on a montrées voilà ce matin.
C'est la réalisation.
Ah, c'est bien. Regardez, on aime bien les. J'adore les péplums. Très très beau, très très beau. Et puis j'aime bien plan A, plan B. Mon ami Pascal Furetto, il me dit bon, ils vont finir au théâtre de Guignol, non? Après à force de réduire les capacités.
Emmanuel Macron, il est venu vous voir?
Il était venu quand il était ministre à Bercy. Il était venu. Il y en a qui. Jack Lang vient est un fidèle. Depuis le début.
Vous avez beaucoup fait pour Jack Lang.
Beaucoup.
et leur même membre, cher Pascal Praud, pourquoi vous ne m'invitez pas plus régulièrement ? Tant de choses à dire dans un institut du monde arabe. Je suis à vie à l'institut du monde arabe.
Oui, c'est sûr.
Non, mais c'est oui.
Même après.
Bon, il est 10h30 et
comme ça... le temps passe. Il n'a pas de prise sur moi.
C'est vrai qu'il est.
Il est plus brun qu'il y a 30 ans. Oui.
Oui, mais bon, c'est sympathique parce qu'il
est super sympa. Il
oui, non, mais l'imitation est sympathique.
C'est une leçon de courage.
Il vous a dit quoi ?
C'est une leçon de courage.
De quoi ? Des
spectacles.
Ah bon ?
Attends. Il a le sens de la formule. Il a le sens de la formule.
Bon, il y a pas beaucoup. C'est dur pour une femme, manifestement, d'être une imitatrice. Il y a pas. De, ça sera peut-être. Il y en a hein, quelques-unes. Oui, oui. Hein, il y a une jeune femme qui a beaucoup de talent qui s'appelle Véronique Dicker, oui. Hein, je crois.
Oui, oui.
Mais je trouve justement, alors vocalement c'est intéressant, peut-être qu'il n'y a pas la supplément d'âme qu'on peut retrouver chez vous, disons-le. Mais c'est vrai que, est-ce que l'étendue vocale est forcément peut-être plus limitée ? Vous pouvez imiter des femmes ? Est-ce que les femmes.
Non, je n'ai pas la tessiture pour. Moi, si je le fais, ce sera une évocation. Ouais. Céline, c'est une évocation, c'est pas vraiment sa voix. Jeanne Moreau un peu plus parce qu'elle avait une voix grave, oui. Mais. Ça le prend. Mais c'est vrai que non, les femmes, en tout cas imitatrices, avec dans la satire, il y en a pas beaucoup. Je pense que Véronique Dicker, elle fait surtout des chanteuses, quoi. Ce qui est bien d'ailleurs. Mais c'est pas le. Il faut un peu mélanger les deux, je crois. Quand on a la chance de pouvoir chanter, moi j'adore ça. Je chante depuis que je suis tout petit. Mais c'est vrai que j'adore ça. Il y a 30 morceaux de musique dans le spectacle. Et je travaille avec des musiciens qui sont extraordinaires. C'est jouissif d'avoir des musiciens.
Et on sent
de pouvoir faire les chansons qu'on aime. Mais je rends hommage, de toute façon, à la. C'est un petit peu la signature aussi à la chanson française. Enfin, en tout cas, celle que j'aime. Et c'est bien aussi de faire redécouvrir des chansons et des artistes qui nous ont quittés et qu'on peut faire revivre.
Et puis il y a plein de trouvailles de temps en temps. Vous imitez l'imitateur qui imite ou Marchais ou Giscard ou Chirac avant et ça. Et ça c'est vraiment drôle. Patrick Sébastien, c'est vraiment très, très drôle parce que.
Ben là je le fais, oui. Je le...
C'est vraiment.
Oui, on me le réclame souvent.
Mais oui, le sketch Monsieur. Mais là aussi vous chopez quelque chose quand vous dites à la Finkielkraut. Monsieur.
Monsieur Finkielkraut. C'est bon. Bien, je suis un bon client. Vous venez à la première.
Mais non, mais parce que bien sûr. Rire. Mais je pense que c'est le rire de tous. Regardez, on est. Somaya à la midi nous rappelle les titres.
Coup d'envoi de l'opération Place Nette à Mayotte pour lutter contre l'insécurité, l'immigration clandestine. 1700 gendarmes, policiers, militaires mobilisés pour cette opération qui doit durer 11 semaines. Un policier municipal blessé dans le Bas-Rhin après avoir été percuté par un mineur lors d'un rodéo urbain. Des faits qui se sont déroulés au petit matin lors de la surveillance de la sortie d'une école. Le suspect âgé de 17 ans a été placé en garde à vue. Et puis le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, souffle sa 50e bougie. Une unité d'élite créée pour répondre aux situations les plus extrêmes sous la devise « s'engager pour la vie » et dont l'anonymat tient de fil rouge dans l'existence de ses membres.
Il nous reste quelques secondes. Merci Somaya. Est-ce que vous êtes client des imitateurs ? Est-ce que quand vous aimez ce genre-là particulièrement, qui est un genre finalement assez nouveau, hein, c'est début des années 70 avec évidemment Thierry Luron.
Avant, c'était un genre de cabaret.
Oui, il y en avait.
Dans les cabarets, mais c'est le Luron qui a vraiment
dénoncé. Exactement. Et quand on était enfant, il y avait...
Henri Tizot.
Alors, il y avait Henri Tizot qui imitait le général de Gaulle. Et puis, il y avait un autre imitateur qui imitait Fernandel, j'ai l'impression. Et qui avait fait...
Don Patillo.
Voilà, qui avait fait Don Patillo. C'était assez rare, disons-le. Est-ce que... Vous avez envie d'une dernière imitation de Laurent Gérard ?
Je suis pas un jukebox.
Oui. C'est ça. C'est difficile hein, de demander comme ça.
Non, mais je suis pas un jukebox, Pascal. C'est gênant.
Bon,
c'est dans ma malle.
C'est dans ma malle.
Ça me souffre.
Il faudrait continuer dans Besson. Je trouve ça tellement top. Voilà.
Je vais écouter celle de Finkielkraut. Pas curieux.
Monsieur Praud, taisez-vous.
Savez l'émission que, a commencé.
Vous savez que l'autre jour,
les lunettes aussi.
Vous savez que l'autre jour, Alain Finkielkraut a dit que le jour où il mourrait, il pense que ce qui restera de lui, c'est ce taisez-vous, oui, oui. Et ça le rend.
J'allais le voir en conférence à Gaveau, c'était remarquable.
Mais bien sûr, évidemment, mais il avait peur, il l'a dit.
Il y a des gens qui l'arrêtent dans la rue pour ça. Enfin, c'est
ouais.
En expression, il restera ça, mais tout le reste. Oui, mais non, aussi.
Tout le reste, c'est tellement formidable. Espérons.
Jean Valton, me dit Bernard Bibis, qui nous écoute. Mais ça, c'est notre culture jeu de 20 heures. Jean Raymond, Robert Roca, Pierre-Jean Vaillard, le francophonie, c'est ce qu'on regardait quand on avait. Parce qu'on baignait, on
regardait. On les a perdus, là. Hein.
Oui. Ah non, Michel. Il y avait un type qui s'appelait Michel Deneria.
Oui.
Et évidemment, bon, tout ça, c'est des gens. Voilà.
Non, Pierre-Jean Vaillard, c'est les deux zones. Donc on a...
Oui, bien sûr. Mais c'est une époque. C'est
mais il faut on savoir. Ça, les chansons. Il y avait, mine de rien, il y avait une liberté, une certaine liberté. Oui. Puisqu'on avait supprimé la boîte à sel, je crois. Des émissions comme ça. Jean-Yann et Martin ont fait très peu d'émissions parce qu'ils ont été censurés.
Bien sûr.
Et je ne sais pas si on pourra encore dire les choses qu'ils disaient. C'était assez exutoire et salvateur.
Nicolas Baillet était à la réalisation, David Marin était à la vision, Thomas était au son, Marine Lançon était avec nous, Félix Perrola. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Et celui qui va vous dire au revoir, qui va regarder la caméra... C'est Jean d'Ormesson qui va dire que dans quelques instants, Jean-Marc Morandini, et rendez-vous ce soir sur CNews. Merci à vous.
Merci et rendez-vous ce soir sur CNews. C'était pas tant.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com